Bonjour, nous sommes mardi matin 14 mars 2020 et nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman. Je suis Alain Frediger, Yves Tanré n'est pas là, il est dans sa chambre, confiné, comme tout le monde. La chambre en italien, ça se dit caméra, et moi je vais vous parler de Des Caméras. Des Caméras, c'est un podcast littéraire lancé en période de confinement. Dans le Décameron, Boccace raconte comment 10 jeunes gens fuient Florence accablés par la peste pour passer le temps, se distraire, racontent 10 histoires pendant 10 jours. Un peu dans cette idée, j'ai lancé un podcast, une sorte de chaîne narrative audio, c'est-à-dire une page SoundCloud et un podcast sur lequel serait postée chaque jour une histoire racontée par un auteur ou une autrice différente. L'une des singularités, c'est que chaque auteur, chaque autrice fait référence à l'histoire de la veille et enchaîne avec la sienne propre. Cela a commencé le 16 mars et aujourd'hui nous sommes déjà à un mois de Des Caméras. Le podcast Des Caméras est disponible sur SoundCloud. Il est disponible à l'adresse descameras.lepodcast.fr. Et il est également disponible sur la plupart des applications podcast. Vous pouvez vous abonner, télécharger les épisodes. Aujourd'hui, sur Aligre FM, moi je vous propose un montage de différentes séquences issues de Des Caméras. Et ça commence comme ça, avec Céline Cerny.
Dans l'histoire précédente, avec son bouffon, Alain Frediger nous invite à nous demander si nous faisons partie des ringards et des bien-pensants. Dans l'histoire que je vais vous lire maintenant, l'héroïne, elle, se demande pourquoi, face au malheur des autres, c'est parfois du soulagement que l'on ressent. Ce texte apparut dans le deuxième numéro de la revue La cinquième saison, et il s'intitule « Verglas ». La lumière des gyrophares pénètre à peine l'habitacle feutré de notre voiture. Pas un bruit tout autour. L'ambulance croisée tout à l'heure a disparu. Il ne reste que la dépanneuse et les pompiers. Un homme orange nous fait signe d'avancer, nous roulons les uns derrière les autres au pas. J'ose à peine jeter un œil aux deux carcasses poussées sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme si les voitures processionnaient déjà la mort de deux des leurs, tandis que les humains s'acharnent à réparer ce qui reste des vivants. Reste-t-il des vivants? Une neige fine a remplacé la pluie verglaçante, et je regrette d'avoir tant tardé à partir. J'ai le temps de me retourner plusieurs fois pour m'assurer que les enfants sont bien endormis. Je n'aurais pas eu la force de répondre aux questions trop pertinentes de ma fille, ni à celles de son frère qui auraient enchaîné les « pourquoi ?» jusqu'à l'écœurement. J'hésite à tourner le bouton de l'autoradio, mais je préfère ce silence. Il est à la fois rassurant et fait office de punition. Punition pour ce sentiment de soulagement qui m'a saisi tout à l'heure en longeant les véhicules. Il y a quelque chose d'ignoble dans ce soulagement qui nous étreint quand nous échappons au pire. En quoi est-ce plus juste et bon que d'autres périssent tandis que nous poursuivons notre vie? Pourquoi faudrait-il être heureux que le malheur s'abatte sur les autres plutôt que sur nous? Qui faut-il remercier de nous avoir épargnés? J'ai cru longtemps qu'avoir des enfants me préserverait d'une forme d'égoïsme, qu'apprendre à me sacrifier pour eux, pour leur sécurité, que tout cela me rendrait plus ouverte et prompte à l'empathie, plus combative aussi. Et pourtant, jamais je ne me suis sentie plus vulnérable, jamais je n'ai tant redouté de me confronter à la réalité, jamais je ne me suis tant repliée. Comme si désormais, la protection de mes enfants ne pouvait être totale qu'en faisant profil bas, en renonçant à toute prise de risque. Être mère m'entrave, et je lui en veux, à lui, mon amour, qui depuis des mois ne cesse de partir là où il y a la guerre. Papa reviendra? Reviendra pas? Ce pourrait être notre comptine familiale. Et comme toute bonne comptine, elle se délecte de la répétition et colle à nos oreilles. Papa voyage pour son travail. Il n'a pas donné de nouvelles depuis 3 semaines. À l'inquiétude intense qui me laisse sans souffle se mêle désormais une rancœur sourde, inavouable. Et pourtant c'est moi qui l'ai encouragé à partir, lui répétant qu'il était inutile de sacrifier 2 carrières en même temps, qu'il ne fallait pas mollir, que ce qui nous avait liés, cette soif de justice et ce besoin d'en découdre, cette adrénaline que seul le terrain procure, devait continuer à faire partie de nos vies. C'est moi qui lui ai dit que de toute façon il était trop tôt pour quitter les enfants, que je n'y arriverais pas. Et tandis qu'il avait déjà pratiquement la main sur la porte, j'ai compris que j'allais lui en vouloir, d'avoir si facilement cédé, de n'avoir pas eu le courage d'aller au bout des convictions qui nous avaient tant rapprochés. Aujourd'hui, secrètement, je me questionne. Est-ce un réel attachement viscéral qui m'empêche de quitter mes enfants pour quelques semaines, quelque chose de l'ordre d'un amour absolu? Ou est-ce simplement la soumission aux injonctions morales, informulées mais prégnantes? Pardonne-t-on jamais à la mère qui abandonne ses enfants? Il m'est arrivé souvent de me demander ce qui pourrait justifier cet abandon. Quel acte d'héroïsme faudrait-il accomplir pour qu'on pardonne à une mère d'avoir délaissé sa progéniture? Suffirait-il qu'elle en vienne à sauver tout un peuple? Et je ne cesse de répéter à ma fille que son père va rentrer, que ce qu'il fait est important. Oui, lui dis-je, il est juste parfois de laisser les personnes qu'on aime le plus au monde pour aller en sauver d'autres, plus nombreuses et plus malheureuses. Oui, il est juste pour l'homme de faire acte de bravoure tandis que l'épouse, tenue dans l'ombre, assure les arrières et la descendance. Oui, il est juste de périr au combat et de ramasser les médailles, au mépris de l'effort des femmes pour faire grandir des êtres humains. En parallèle, comme si nous vivions dans deux mondes différents. Oui, il est juste de louer la victoire et la force du mal, tandis que maman condamne le geste agressif de son fils dans la cour d'école. Ne tape pas sur ton camarade. Attends d'être adulte pour ça. Mais papa n'a rien d'un combattant. Papa écrit et dénonce. Il fait avancer les choses. Ce qu'il fait est bien, même s'il est loin de nous. Les risques importent peu. Notre fille n'en croit pas un mot. Moi non plus. Elle se refuse d'ailleurs à tout exercice d'écriture scolaire. Elle lit couramment mais ne trace pas une ligne sur ses fiches. En raison des circonstances, la maîtresse fait trêve. Je n'insiste pas. Je l'ai surprise l'autre soir à griffonner dans un cahier. Écrire fait du bien. Et merde aux méthodes scolaires qui mutilent l'imagination et la liberté de nos enfants. Pardon de penser ça. Je sais que ma fille devine ce genre de pensée et sa révolte silencieuse qui se joue entre les pages d'un cahier secret me tient debout. Sait-elle qu'il n'y a pas d'instinct maternel? Que tout mon amour pourrait ne pas suffire, que les mères et les pères ne sont pas forcément de bons parents. À moi de concilier ma colère rentrée et mon besoin de justifier cette décision prise à deux que pourtant je ne supporte plus. Hier, en arrivant chez ma belle-mère, j'ai pensé que nous aurions dû rester à la maison au cas où il rentrerait à l'improviste. Mais je sais à présent que nous avons bien fait d'aller nous réchauffer près d'elle. Elle avait ses yeux doux, dont l'absent a hérité. Je m'amuse encore à trouver que la couleur de leurs iris est aussi celle des mélèzes en automne, comme si, génération après génération, les tons de la montagne avaient déteint sur eux. La visite nous a fait du bien, même si belle-maman ne sait plus comment me prendre, moi et ma marmaille. Elle ne sait pas où mettre ses mains, pour dissimuler sa peur, son manque du fils parti trop loin, et dont l'absence est encore plus difficile à supporter quand je suis là. Elle multiplie les petites attentions, m'offre un savon, du thé, prépare des tartes et des biscuits dont elle gâte mes enfants. Moi, je la comprends. Je ne lui en veux pas. Mais je ne sais plus quoi lui dire. Je souffre simplement de la solitude et de l'injustice. Au fond de mon vagin résonne une longue plainte que personne n'entend. Je n'ai plus goût à la caresse et suis en quête d'un amant. Le désir pousse à vivre, à gravir, à respirer profondément. Baiser me ferait du bien, calmerait cette rancœur peut-être. Je ne parle pas de faire l'amour avec mon mari. Croire au désir sur commande est risible. Quand l'absent revient enfin, après s'être gavé des cajoleries des enfants dans l'odeur sauve de tout, quand enfin on se retrouve, lui et moi, nez à nez, épuisés, les mots et les gestes de tendresse viennent naturellement, mais pas le sexe, qui entre nous désormais semble bâillonner. Est-ce que j'aime encore celui qui s'absente et dont l'odeur a disparu depuis longtemps de nos draps? Est-ce que j'aime encore celui qui ne revient que pour jouer son rôle de père, s'enfoncer jusqu'au cou dans les responsabilités de notre famille, au mépris de ce qui fut notre amour? Quel amour? Que faire de ces lambeaux? Faut-il en prendre soin comme du linge, laver, étendre, plier, ranger dans l'armoire, sur la pile et faire tenir le tout d'un geste de paume qui ressemble parfois à une caresse? Hier, je lui ai envoyé une nouvelle photo des enfants, leurs joues rougies par le froid, tenant entre leurs moufles des glaçons arrachés au bord des toits, et qu'ils vont susauter malgré mes mises en garde. Sur la tête de ma fille, le bonnet reçu il y a un an, quand nous étions encore tous les quatre, jour après jour, abêtis par la banalité d'un quotidien trop lisse. Où est-il ce bonnet d'ailleurs? Les photos sont faites pour prendre conscience des disparitions. Avec les bonnets perdus de mes enfants, nous pourrions couvrir les têtes de tous les petits dont parle mon mari, qu'il décrit dans ses articles, orphelins et fuyards. De mon mari, pas de nouvelles depuis 3 semaines. C'est trop long. Le manque me tenaille. Sur la dernière photo qu'il a postée, je peine à reconnaître les traits de son visage, son sourire. Son front immense est strié de rides, luisant de transpiration et d'anxiété. Il se plaignait de la chaleur des nuits trop courtes. Je ne parviens pas à me projeter dans cet univers moite, saturé de soleil, tandis qu'ici c'est la saison du verglas et des avalanches. Noël passé, il n'y a plus rien pour nous distraire des cruautés de l'hiver. L'autre jour, nous étions à l'enterrement d'un père mort en montagne. L'esquisse d'un sourire dans les yeux, ma fille m'a dit « Au moins, papa, ça risque pas de lui arriver, mourir sous une avalanche. » J'ai eu un petit rire, une sorte de hoquet, et puis je l'ai serré contre moi, sur le côté, presque brutalement. On vient de quitter la route principale. Les lumières de la ville m'apaisent. La maison, sa chaleur, ses odeurs, la douceur des câlins ensommeillés tout bientôt. Dans le rétroviseur, j'aperçois le visage de mon petit garçon. L'abandon de son corps et la pâleur de ce visage sont telles que je crois parfois regarder un enfant mort. Mais il respire et je respire, et tout est là, l'essentiel, contenu entre les plaques de métal de cette voiture. L'essentiel, eux et moi. Qui devrais-je remercier de nous avoir, encore une fois, sauvés du verglas, des avalanches et de tous les malheurs du monde? La nuit peut-être, la nuit qui nous délivre du jour.
C'était Céline Cerny dans Des caméras. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman. Je vous disais qu'Yves Tanré était absent et que moi, Alain Frediger, je menais cette émission. Mais Yves Tanré est quand même avec nous puisqu'il a participé à Des caméras avec un récit que nous allons écouter tout de suite.
Hier soir, Elke Filder nous a lu Le temps de traîner et avec elle, nous étions dans la trace. La trame, la traînée, avant, après, pendant. Moi, aujourd'hui, dans cette ronde de la décaméra, je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui ne savait pas raconter d'histoire. Il n'y a pas de confinement heureux. En ce mois de juin 2020, nous étions là, tous enfermés, confinés. À 7, dans notre appart. Et voilà comme mon tour était venu de raconter une histoire. D'un côté, c'était bien, ça allait me distraire de mes symptômes. Mais de l'autre, c'était l'enfer. J'avais passé toute ma vie à essayer de raconter des histoires et je n'y étais jamais arrivé. Et maintenant que ma vie était finissante, que je faisais partie des personnes à risque, c'était trop injuste. Voilà qu'à nouveau, j'avais à subir cette humiliation. Ainsi, cela faisait 4 mois et 2 semaines que nous étions confinés ensemble dans notre appart HLM de 62 mètres carrés. À 7. Plus personne ne parlait à personne depuis longtemps. Nous effleurions, telles des ombres de l'au-delà. Netflix avait déconné. Trop d'offres promotionnelles. Internet avait sauté. Et du coup, ici, dans notre appartement, avait été voté en interne que chacun devait raconter une histoire à tour de rôle. Et je somnolais devant mon Mac quand soudain, je me suis retrouvé projeté en 1984. À l'époque, je n'étais pas comme aujourd'hui un vieillard chenu et je ne racontais pas d'histoire. Je n'étais pas tout le temps à l'affût de je ne sais quel symptôme. Un nez qui coule, une toux sèche, des mains moites, une joue qui picote. J'avais 15 kilos de moins et je n'étais pas comme je le suis aujourd'hui, si attentif à la condition féminine, à la qualité de l'air et à la disparition des moineaux. Je vivais ma vie sans me poser trop de questions. En ce mois de juin 2020, j'étais donc en train de voyager dans le temps, quand soudain m'est revenu un 4 avril 1984. Elle mesurait 1m62 et pesait dans les 47 kilos. Elle avait touché à la poudre, donc le sexe ne l'intéressait pas beaucoup. C'était une fille pratique. Elle avait changé de nom pour échapper aux impôts. Plutôt que marginale, elle m'aurait aimé voyou avec plus de tenue et plus violent aussi. Moins dans les livres, plus dans les fringues, la frime. Moins au bistrot tous les soirs, moins hippie, plus mariachi. Moins tout dans la gueule et plus dans les sentiacs à bout ferré. Elle écoutait Mike Deville. Son vrai nom était espagnol. Son ex travaillait dans l'espionnage, c'était un informaticien. Et lui aussi avait eu sa période junkie. Du coup, comme elle avait des dettes à rembourser, elle n'a pas hésité. Elle est venue vivre avec moi dans ma chambre de bonne. C'était économique. Elle m'avait dit que son prénom, c'était Catherine. Je l'appelais Bijou et mes potes, Minnie, comme la copine de Mickey. Toutes les semaines, elle ramenait Télé 7 jours et c'est la seule chose qu'elle lisait. Dès qu'elle a eu remboursé ses dettes, elle a loué un deux pièces au boulevard Beaumarchais, emprunté une voiture, été à Perpète chez Ikea, acheté une mini-table à Rabat, 3 chaises pliantes, un lit et une télé. Et nous sommes partis vivre là-bas, près de Bastille. Elle me trouvait trop dépendant aux autres, trop avide d'affection, de reconnaissance. C'était pendant l'année et demie où j'ai touché le chômage. De ce côté-là, il n'y avait rien à dire. Chaque fin de mois, mon petit chèque tombait. À Beaumarchais, elle a emprunté à un pote une scie circulaire et je me suis mis à fabriquer dans un aggloméré de bonne qualité des casiers pour mes livres. Un mur entier, du sol au plafond, et les pièces étaient hautes. Des formats différents, du plus grand au plus petit, d'un in-folio à un 10-18. À part la scie, j'avais un autre outil qui faisait des trous. Je n'utilisais aucun clou. Je les assemblais avec des chevilles en bois, je mastiquais les bords et puis je les ponçais. Je les peignais ensuite. Du beau boulot. J'en ai encore une trentaine. Je dormais jusqu'à 11h, 11h30. Je me levais et je regardais les envahisseurs sur la télé de Mini en buvant mon café du matin. Ensuite, je bossais une heure ou deux. J'écrivais un scénario et j'ai failli avoir l'avance sur recette pour le développer. La lettre disait « Pour cette session, nous n'avons plus de ressources, mais représentez-vous sans faute à la prochaine. » Par relation, elle m'avait trouvé un autre truc et ça, ça a marché. Une plainte page dans le monde diplomatique. Dans son sud, enfant, elle avait été très bonne élève. Elle me corrigeait donc les fautes d'orthographe et c'était tout bénéfice. Le scénario aussi avait eu une présentation impeccable. Même qu'il était illustré de photos qu'avait faites un de mes potes suisses qui était graphiste. Quand je lui ai montré ce scénario, Jean-Pierre Limousin, un exécutif du cinéma, a fait la grimace. Ça paraissait tellement petit bourgeois, paumé, mec qui veut bien faire, ridicule, type qui n'a rien compris. J'ai donc laissé tomber et ne me suis pas représenté à la session suivante. Tout ça, ça s'apprend. Et moi, on ne m'avait jamais rien appris. Il était assez courant d'ailleurs qu'en ces temps-là, on me traite de mal appris. Donc mon drame, c'est un peu ça. Je ne sais pas raconter, peindre. Emballé et baratiné, oui. Dépaysé, envoûté, non. Ça fait pourtant si longtemps que je m'y évertue. En 1973, j'ai essayé de raconter l'histoire d'une poignée de jeunes gens qui gagnaient leur vie en mettant des publicités pour une formation à l'informatique dans des boîtes aux lettres. Je n'y suis pas arrivé. 30 ans plus tard, j'ai tenté de raconter la fin de l'international situationniste. Je n'y suis pas arrivé. Puis la vie héroïque de ma mère. Je n'y suis pas arrivé non plus. Mon enfance miséreuse, le long déroulement d'un été caniculaire à la Butte aux Cailles dans le 13e arrondissement à Paris. J'ai tout essayé. Rien n'a jamais marché. Oui, moi, je ne sais pas raconter d'histoire. Je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas écrire. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas plaire. Je ne sais pas vendre. Je ne sais pas me vendre. Du coup, donc je fais avec ce que je ne sais pas. Et ça bave toujours un peu. Et après, je suis tellement malheureux. C'est à pas y croire. Rien ne marche jamais. De toute ma vie, je ne sais pas. Je n'ai jamais touché un prix, une prime, une subvention, une résidence, un diplôme, un compliment, une flatterie. Et donc pendant longtemps, disons jusqu'à 50 ans, comme si je l'avais deviné par avance, j'ai rien foutu. Je me levais à 4h de l'après-midi, je vivais au bistrot, je pérorais, c'était bien. Je lisais de gros livres, je rêvassais, je dessinais dans ma tête, et c'était tellement ça, à pas y croire. Et des livres, dans ma tête, qu'est-ce que j'en ai écrit? Plus que Shakespeare même, et dans ma tête. Le succès, la gloire, les honneurs, les tapis, les escort girls, le petit déjeuner offert à l'hôtel, et je chantais sous la douche. À la piscine municipale, donc. Vu que je vivais dans une chambre de bonne, et de bonne, il n'y en avait plus, mais il y en avait encore. Et danser, zut. Voilà encore un truc que je sais pas. Mais merde, un nul comme toi, c'est à se flinguer. Je sais pas danser. Je suis d'un raide, c'est à pleurer. Pas de bol. Pleurer, je sais pas non plus. Je pleure pas. Je ricane, et ça non plus, ça ne passe pas. Et ça ne fait pas vendre. Je flippe trop, là. J'angoisse. Je me tâte, je frissonne, je m'observe, je me fuis, je me dis mais non, j'ai chaud, j'ai froid, je tousse, je ne tousse pas, je m'oublie, on me parle, j'écoute, j'écoute pas, je transpire pas, fait chaud, fait froid, je m'occupe, je m'oublie, ça va, ça ne va pas. Tu psychotes, me dit Anna Livia. Ah, pouvoir être doux sans être mièvre, présent sans être lourd, juste être ce corps, un courant d'air. Tournoyer tout doucement comme une feuille qui tombe d'un arbre en automne et ainsi mourir chaque seconde à soi-même. Non pas être ce corps et abandonner son esprit, non. Juste être là, tranquille, sans attente, sans futur, sans passé, sans avenir. Et pas enraciné, mais flottant dans l'air. Effleurer chaud ses gens, arbres et sentiments. Cela n'empêche pas de penser, enfin ce que l'on appelle comme ça, ce défilement lent ou rapide, ce bavardage qu'on a dans la tête. Juste on s'en fout et lui, il se calme un peu. Il laisse pisser. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de plaisir. Pas d'effort. Pas de sagesse. Ce n'est pas un loisir ni un travail. C'est un geste. Une suite de gestes. C'est dessiné dans l'air et sur une ardoise magique. Cela s'efface comme cela s'écrit. On ne s'en fatigue jamais. On n'y pense pas, on le fait, on l'est. Jeanne, comme je parlais bien le désespéranto. Oui, oui, je voulais réinventer la révolution et être le révolté le plus artistique de tous les temps et le bohème le plus révolutionnaire de toute l'histoire occidentale. Je voulais lutter contre la banalisation du monde, déchaîner une inflation mortelle dans l'univers des concepts, abolir toutes les spécialités et tous les spécialistes, déconstruire le système, et je voulais plus que tout dissoudre en moi le désir d'être aimé par les autorités. Je voulais réaliser ce que les artistes n'avaient fait que rêver, le paradis sur terre, d'où, connu de tous de par mon style provocateur, intransigeant et élitiste, je fus essentiellement un mythe, le plus extrémiste et le plus infréquentable des marginaux. Bien décidé à ne jamais aller travailler, je voulais détruire l'idée bourgeoise du bonheur. Je voulais faire la guerre de la liberté avec générosité et colère. Oui, être une émeute. Tendre et tendu, il tendrait, tendrait. Je voulais inventer de nouveaux sentiments comparables en puissance à la haine et à l'amour. Et bien sûr, être le dernier baladin du monde occidental. Je voulais rester pauvre et insouciant, ne rien posséder. Et quoi que vous puissiez en penser, vous êtes bien forcé de le reconnaître. J'y suis arrivé. Oui, je suis toujours sans un, éternellement juvénile et immature. Je crève encore et encore, et de faim, et de désir, et d'amour, et de confinement.
C'était donc Yves Tanret dans Décaméra. Mais je vous disais également que Décaméra, l'un des principes du podcast, c'est que les histoires s'enchaînent les unes aux autres. C'est une ronde de récits. C'est pourquoi nous allons maintenant écouter deux histoires qui s'enchaînent particulièrement bien. La première par Gaël Bandelier, suivi par Alessandro Mercuri.
Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais vous lire maintenant après ma prédécesseur, Annick Mahim, qui donc a lu un texte d'Henri Michaud hier. Et avant ce texte, elle a parlé de ce que peut la littérature. C'est une notion qui m'a interpellé. Qu'est-ce que cette puissance possible, cette potentialité de la littérature, qu'est-ce que la littérature peut avoir, hein? Est-ce qu'elle a un pouvoir sur quelque chose? Est-ce qu'elle peut influer vraiment sur autre chose qu'elle-même, en fin de compte? Et elle a également parlé de success story, en parlant de ce texte « Après ma mort » d'Henri Michaud. Et tout ça m'a appelé, m'a fait résonner en moi la notion de risque, puisque, en fin de compte, qu'est-ce que prendre en risque en tant qu'écrivain? Qu'est-ce qu'un risque d'écrivain? C'est un risque de papier, en fin de compte, ou audio-papier, là où, en l'occurrence. C'est-à-dire que c'est quelque chose, un risque d'écrivain vain. Qu'est-ce que peut la littérature? Peut-être plus, mais... Donc, prendre un risque d'écrivain, un risque, c'est commencer quelque chose de manière très sincère, de manière entière. On se jette complètement dans un projet, quelque chose. On démarre une chose sans savoir où l'on va, évidemment sans connaître la fin, sans savoir s'il y aura une fin, ni fin ni finalité. Et on y va comme ça... Seul, perdu dans cette immensité du vide éthérique, dans cette immense ouverture en tous sens dont parle Henri Michaud. Et même si dans le risque, on est sans doute toujours très seul, en fin de compte, on n'est pas vraiment si seul. Et donc, pour ma part, pour les caméras, cette ronde des caméras, j'ai décidé de ne pas lire quelque chose que j'aurais écrit, mais de lire quelque chose que je n'aurais pas pensé. Une sorte de... Voilà, qu'est-ce qu'un auteur, en fin de compte, qui n'écrirait pas quelque chose qu'il lirait par la suite, ou qui ne lit pas quelque chose qu'il aurait pu écrire au préalable, mais bien qu'il dit... Enfin, c'est vraiment la différence entre lire et dire... Cette différence entre le D et le L, une sorte d'idéal, que ça, d'idée, justement, ne pas avoir d'idée. Car quand j'écris, je n'ai aucune idée, c'est l'écriture qui pense au moment où elle s'écrit. Et là, qu'est-ce que ce serait quelque chose comme un écrivain qui parle sans idée préconçue? Sans texte, ni sous les yeux, ni derrière les yeux, dans la tête, mais simplement un texte qui remonte de la gorge et qui s'en va jusqu'au micro, puis qui se transforme en 0 et en 1 et puis qui atterrit ou qui atterrit, je ne sais pas si, est-ce qu'un texte peut atterrir, ça voudrait dire qu'il peut voler déjà, est-ce qu'un texte, un texte volant, est-ce qu'on peut imaginer à quoi pourrait ressembler un texte qui s'envolerait comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose de cet ordre-là quand même, c'est une pensée volante, pas volée, mais quelque chose qui vole, qui volette comme ça, de vibration, vibration d'air, de molécules, pour donc atterrir dans un ordinateur sans doute, un iPhone, un appareil électronique qui reconstitue ces 0 et ces 1 en ondes sonores qui ont pris naissance dans ma gorge, dans ma bouche, puis devant ma bouche jusqu'au micro. Et puis donc, de cette onde sonore, depuis le haut-parleur, votre haut-parleur en ce moment, là, maintenant, vous écoutez, ou votre casque, eh bien, cette vibration va tambouriner votre tympan pour ensuite s'enfermer dans votre tête, dans vos têtes, car j'espère que vous serez plusieurs à écouter j'allais dire ce texte, mais c'est pas un texte, puisqu'il n'y a pas de texte là maintenant, c'est une parole. Cette parole libérée de ma tête qui va ricocher dans la vôtre avec plus ou moins d'écho, selon la profondeur peut-être, la cavicatation, la rondeur oseille de la tétasse, puis pour ensuite s'imaginer quelque chose de l'ordre de la pensée mobile de l'extérieur, puisque j'ai décidé de dire ce long texte, cette parole, à l'extérieur, devant chez moi. Je déambule, je marche, je souffle. Je suis peut-être un petit peu essoufflé, il fait pas chaud, mais il n'y a personne, pas grand monde. Une voiture de temps en temps, un passant, qui passe, qui déambule comme moi et comme ma parole, qui s'approche de moi, qui croit que je lui parle. C'est vrai que bonjour. Voilà, on s'est croisés. On m'a pas répondu. Il s'est un petit peu écarté en me voyant. Ce n'est pas parce qu'on ne dit plus rien que la pensée s'arrête ou qu'on n'a plus rien à dire. C'est simplement que les silences résonnent des fois mieux que les sons ou les bruits que l'on peut faire, même des bruits intelligibles comme je un peu comme un maintenant. Et puis ça ferait la rebondissation du massage 7 et puis l'image FM, parce que c'est pas parce qu'on fait de la musique qu'on n'a plus rien à dire. C'est simplement parce qu'on a quelque chose à dire avec la musique, par la musique. Il ne faut pas toujours dire absolument quelque chose, mais simplement donner à entendre quelque chose. C'est pas la même chose de dire et de donner à entendre. Enfin, ça peut être la même chose, mais ça l'est pas forcément, je pense. J'ai l'impression qu'on peut vraiment imaginer une parole sans être, pour autant qu'elle soit dite, mais qu'elle soit simplement musicale, musicalasité, musicalité, musicalokof, musicalakali, musicolique, musicafame, musicalafame, musicafoum, mouf, maf, mif, musicom, musicalhomme, musicalmouche. Et c'est pas parce que on pourrait lire, imaginer. C'est ça. Il faudrait pas penser que là je chuchote un peu parce que. Je chuchote parce que je m'emballais un peu sur n'importe quoi Non, c'était pas n'importe quoi. Qui a dit ça d'ailleurs? C'est pas moi qui pense. En tout cas, déjà, je ne pense pas vraiment en ce moment, puisque je déblatère, je dis, je chante, mais je chante sans mélodie, ou avec une mélodie pas musicale, mais quand même qu'il l'est quand même. Mais... Donc, oui, en fait, je chante, mais simplement je chuchote parce que une passante est passée près de moi et elle m'a regardé bizarrement parce que j'avais un micro et je parlais de mon micro. Et je racontais des choses que je n'avais pas envie de dire. Je racontais des choses. Je disais, par exemple, qu'il ne fallait pas penser que la musique pensait ou qu'il ne fallait surtout pas, en tout cas, s'arrêter. Là, peut-être partir dans un flux, évidemment, une sorte d'imagination comme ça de plantes vertes qui pourraient croître à l'envers, mais peut-être se mêler soi et peut-être partir du pied pour arriver jusqu'au bras. Bras ballants et bras dessus et bras non. Et voilà, pied dans la main et ensuite on irait de lampe en lampe et je ne sais pas, on ramperait sous des arbustes à plat ventre parce qu'il n'y aurait plus de dos, il faut abolir tous les dos. Je pense que c'est une erreur d'avoir autant de dos. Il y a beaucoup trop de dos dans cette vie, je crois qu'il faudrait peut-être apprendre à se passer de tout ça, de tous ces dos, et j'ai l'impression que si on était plus face à face, comme ça, oreille contre oreille, bouche à bouche, bouche à oreille, oreille à bouche, et qu'il faudrait peut-être, comme là maintenant, si vous m'écoutez encore, et si, je sais pas si on peut dire écouter, entendre, peut-être entendre, si vous tendez votre oreille jusqu'à moi, jusqu'à ma bouche, qui s'articule, qui s'articule, qui recule, qui mange, qui mâche, mâchamaille, qui bétaïmaille, fkebala, et banam, et menemesh, amalation, mais parce qu'il fait ça, parce qu'il mala, voilà. Et encore une fois, je. Voilà.
Hier, Gaël Bandelier ne nous a pas lu une histoire, bien au chaud et confortablement assis. Non. Déambulant dans la ville, il a enregistré une performance, un récit pour voix, respiration, silence, imprévu et paysage sonore. Ou comment écouter un écrivain parler sans idée préconçue, sans texte, écouter non pas un discours, mais une parole libre, un dire en train de se faire. Aujourd'hui, dans la ronde de la Décaméra, je vais vous raconter une histoire vraie qui m'est récemment arrivée. En réalité, rien ne m'est arrivé à moi. Le personnage principal de cette histoire est un arbre. Je vais témoigner de qui il était et parler en son nom, sans trahir, j'espère, sa pensée. Car, comme le dit l'adage du Moyen-Âge, qui fait mentir l'arbre, celui-ci jamais ne lui pardonne. Samedi 7 mars 2020, j'avais rendez-vous au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, dans un immeuble de bureaux situé avenue Jean Jaurès. Cette avenue, aussi morne qu'interminable, trace la frontière entre deux villes de la Petite Couronne, Pantin et Aubervilliers. De part et d'autre, les poubelles débordent, les ordures s'entassent et les papiers gras virevoltent, tels des papillons du beurre volant, en anglais « butterfly ». Je gare mon véhicule sur l'avenue du cimetière parisien, en face d'une entreprise de pompes funèbres. Fabrication de caveaux et monuments, précise l'enseigne du magasin. Les slogans pour attirer le chaland affichent des « sur mesure », « expertise », « écoute », « créativité », « savoir-faire », « qualité et finition », « précision et fiabilité », « gravure à la main ». Une employée aligne sur le trottoir des présentoirs chargés de fleurs. Le soleil brille. Sous sa lumière matinale, les pétales de fleurs mortuaires rougissent, blanchissent, jaunissent, rosissent, bleuissent. La mort, ce matin, est multicolore. Et en ce début du mois de mars, le printemps semble sur le point d'éclore. Du haut d'un platane nu, un oiseau psalmodie son gazouillis. L'envie me prend d'enregistrer son bel canto à plumes. À peine ai-je appuyé sur le bouton rouge de l'enregistrement audio du smartphone que le chant s'évanouit. Je cherche l'oiseau dans l'arbre. S'est-il envolé ou se cache-t-il? Accroché en haut des branches, je remarque un nid d'une forme étrange. Clic! Le voici pris en photo. J'observe le cliché, zoom des doigts dans l'image. Ce nid est une énigme. Mais est-ce vraiment un nid, ou plutôt un sac poubelle pris entre les branches du platane? Depuis l'avenue du cimetière parisien, je rejoins l'avenue Jean Jaurès. Arrivé en avance à mon rendez-vous, j'en profite pour rendre visite à un autre arbre, une créature végétale d'un genre, d'une espèce des plus singulières. Il était une fois un arbre de contes de fées, une vision rare et précieuse, quelque chose d'irréel et vivace, comme seule la nature sait en pourvoir. Depuis 3 ans déjà, j'observais la croissance d'un jeune bouleau à l'écorce blanc-argenté. L'arbre avait pris racine et grandissait, accroché à la façade d'un immeuble abandonné. La base de son tronc avait fait voler en éclats le linteau d'une des fenêtres murées. Retour en arrière. C'était il y a 3 ans, au printemps 2017. J'avais alors rendez-vous dans ce même immeuble de bureaux situé avenue Jean Jaurès. En chemin, je passais devant un immeuble abandonné aux fenêtres toutes murées. En levant les yeux au ciel, à l'angle du toit et de la façade, je vis un arbre jaillir de l'échancrure du mur. Il trônait, vert, feuillu, en hauteur, au sommet de l'immeuble, comme une statue vivante, dont le bâtiment aurait été le piédestal. Je cherchais alors à connaître la généalogie de ce miracle. Et quel meilleur historien des paysages urbains que Google Street View, le service de navigation de la firme californienne aux 1 000 milliards de dollars. Une adresse URL nous y mène. Je vous prierai, chère auditrice, cher auditeur, de vous munir d'un crayon, d'un bout de papier et de noter l'adresse ci-après que je m'apprête à lire. Ou plutôt, au lieu de noter l'URL à la main, reportez-la directement dans la barre d'adresse de votre navigateur web. Allons-y, je dicte. Ah ! Et si vous êtes perdu, à tout moment, vous pourrez appuyer sur le bouton « Pause » et rembobiner le podcast. Et même si le terme de « rembobiner » est impropre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voici donc l'adresse URL correspondant au numéro 98 de l'avenue Jean Jaurès. https://www.google.fr/maps/arobase48-90-46-00000000.0000000.8161-63-84.8-161-92. Pour paraphraser psaume 145-3, en remplaçant l'Éternel par l'URL, nous obtiendrions le verset suivant: l'URL est grande et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Aussi mystérieuse soit-elle, notre URL est une machine à remonter le temps, et plus l'adresse est longue, plus le temps semble se rembobiner. À cette adresse, nous trouvons une image. Il s'agit d'une prise de vue en date du mois d'avril 2019 effectuée lors du dernier passage de la Google Car, cette voiture équipée de super caméras tout droit venues du futur. Une petite fenêtre rectangulaire située à l'extrémité supérieure gauche de l'application nous offre la possibilité d'accéder à l'historique des prises de vue. De juin 2008 à avril 2019, l'immeuble est photographié à 7 reprises. En voici l'historique. En juin 2008, le bâtiment est encore habité. Aucune fenêtre n'est murée. Certes, l'immeuble est décrépit. Le crépi de la façade s'écaille, les volets extérieurs en métal sont rouillés et semblent se déchausser. Au rez-de-chaussée, deux enseignes. À gauche, sur fond jaune, Speed Rabbit Pizza, conjugue vitesse, lapin et pizza. À droite, un salon de coiffure mixte, coiffure de mode Karim. L'établissement paraît définitivement fermé. Le Yellow Rabbit, lui, est encore vivace. Notre regard remonte doucement du rez-de-chaussée au quatrième et dernier étage. Et que voit-on là-haut? Tout là-haut, sur la photo. Le soleil est au zénith, l'image est inondée de lumière et rend la vision incertaine. En anglais, on parle de lens flare pour décrire ces halos de lumière qui font irruption et aveuglent notre regard, ou plutôt celui de l'objectif de la caméra. En clignant des yeux, on croit voir accroché sur le toit une sorte de buisson étincelant, enraciné et irradiant de lumière. Oui, on distingue bien une touffe végétale au sommet du bâtiment. Sans doute, l'arbrisseau est-il né d'une graine, peut-être apportée par le vent ou un oiseau du square Stalingrad ou du parc d'Hydro, deux espaces verts situés non loin de là. Deux ans plus tard, en novembre 2010, le buisson s'est développé. L'immeuble est toujours habité. Juillet 2012, soudain, des feuilles. Le buisson est devenu arbuste et semble avoir pris racine dans la façade. Juin 2014, l'arbuste poursuit sa croissance. L'immeuble paraît de plus en plus insalubre. En juillet 2015, trois fenêtres du deuxième étage ont été murées. L'année suivante, en juillet 2016, le dernier étage est entièrement muré ainsi que deux fenêtres du premier étage. La pizzeria du Limpin Jaune n'est plus. Mais une bannière commerciale de restaurant est apparue. Halal, sandwich, burger, pizza, panini, surmontée de la mention Holy Food. C'est un an plus tard, au mois d'avril 2017, que je découvre par hasard cet arbre au sommet de l'immeuble abandonné. Je m'empresse de le photographier. J'observe le cliché, zoom des doigts dans l'image. À la couleur blanche de son écorce, je devine qu'il s'agit d'un jeune bouleau. L'espèce fait partie des plantes dites pionnières. Selon la notice Wikipédia, une espèce est dite pionnière si elle constitue l'une des premières formes de vie qui colonise ou recolonise un espace écologique donné. Il peut s'agir d'un milieu nouveau, île volcanique, murs ou autres constructions, friches industrielles, sols ou flancs de carrière. ou un milieu récemment perturbé. Destruction humaine, éboulis, érosion, glissement de terrain, incendie, chablis botanique. Une île volcanique, un mur ou toute autre construction, ces environnements conviennent, nous dit-on parfaitement, à notre jeune boulot. Et l'on se prend à rêver. Qui sait, un jour peut-être viendra, ou de l'arbre entaillé surgira une fontaine de sève de boulot, éclaboussant les passants du haut de l'immeuble abandonné. Une fontaine, que dis-je ? Non, une cascade d'eau de boulot emportant le bâtiment des sols au plafond. Autrefois, le boulot était connu sous le nom de l'arbre de la sagesse. Comment baptiser la sève qui s'écoule de la sagesse ? Une eau de vie ? Oui, une eau de vie, mais sans alcool. Tel est le boulot vu depuis la rue. Mais l'arbre existe aussi observé depuis l'espace, via le système de cartographie en ligne Google Maps. Le satellite de la NASA, Landsat 8, positionné en orbite à plus de 700 km d'altitude, nous permet d'observer le jeune boulot à 360 degrés depuis les quatre points cardinaux, nord, sud, est, ouest, selon un rendu en trois dimensions, l'arbre sous toutes ses coutures. En réalité, les algorithmes de calcul ne dévoilent pas l'arbre en tant que tel, avec ses racines apparentes, son tronc, ses branches et ses feuilles. Non, le boulot vu depuis l'espace, en orbite, apparaît sous la forme d'un parallépipède vert. La vision satellitaire transforme l'arbre en cristal, le boulot pétrifié en quartz vert émeraude ou vert pomme, vert poireau ou épinard. Quittons le satellite et revenons sur Terre. En ce samedi matin du mois de mars 2020, descendant l'avenue Jean Jaurès en direction de l'arbre magique, je longe l'église Sainte-Marthe des Quatre Chemins. Lugubre, l'édifice témoigne de la laideur architecturale catholique fin 19e, si répandue en France et si hideuse que je ne cesse de caresser l'idée, un jour, d'écrire un guide des églises les plus laides de France. Ce temple sinistre, grisâtre, situé dans un quartier macabre, me rappelle la joyeuse vision de Nietzsche. Ainsi parlait l'auteur du Gai Savoir. On raconte encore que ce même jour, le démon aurait fait irruption dans différentes églises et y aurait entonné son requiem aeternam deo. Expulsé et interrogé, il se serait contenté de rétorquer constamment ceci : que sont donc encore ces églises, si ce ne sont pas les caveaux et les tombeaux de Dieu ? Une fois dépassé l'église qui donne la chair de poule, me voici arrivé au lieu dit, l'immeuble abandonné où un arbre naquit d'une graine envolée, emporté par la brise, un gros oiseau prédateur ou un petit passereau. Mais patatras, perte et fracas. L'immeuble muré a disparu, rasé, oblitéré. Il n'en reste rien ou presque. À la place, un tas de ruines, des pierres, de la terre et un trou. Mais nulle trace de l'arbre à la peau d'argent. Je photographie les débris et tâche en vain de retrouver un souvenir de l'arbre disparu, à tout jamais disparu, envolé tel l'oiseau en haut du platane de l'avenue du cimetière parisien. Rappelez-vous, cet oiseau envolé, peut-être portait-il lui aussi une graine dans le bec, le gosier ou l'estomac ? Posons-lui la question. Ô toi, l'oiseau, dis-moi, de ta fiente éthérée, jaillira-t-il un jour un nouvel arbre ? Moralité de cette histoire à la frontière d'Aubervilliers et de Pantin. La morale de cette histoire, vous demandez-vous, chère auditrice, cher auditeur ? Je l'ignore. Ou toute morale qui vous plaira. Mais imaginez un instant que la disparition de l'arbre ait fait les gros titres de la presse locale. Quelle nouvelle sensationnelle liriez-vous alors en pleine page ? Imprimé, en lettres capitales, un titre accrocheur, quelque chose dans ce genre. L'arbre de l'espoir s'en est allé vers la nuit noire. Ou plus guiret, de point ouvrez les guillemets, une graine portée par un chant d'oiseaux obstiné fait s'écrouler tout un immeuble abandonné.
Des caméras, c'est bien sûr une référence au Décameron, mais c'est également des caméras, sortir de sa chambre, sortir du confinement. Et vous venez d'entendre Alessandro Mercuri. Je suis Alain Freudiger, vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Des caméras, c'est tous les soirs. Les prochains auteurs que vous pourrez entendre ce soir, Baptiste Gaillard, demain, Huguette Poirier, jeudi, Brice Catrin et Cléa Chopard, vendredi, Caroline Parietti, samedi, Jean Prodon. Je vous rappelle l'adresse du podcast soundcloud.com/descameras ou descameras.lepodcast.fr. Vous pouvez suivre le podcast sur n'importe quelle application de podcast. En attendant, la suite des programmes sur Aligre FM.